Je me tourne vers vous, Eric Colomer, bonjour.
Bonjour.
Et je me tourne vers vous, Rémi Bénichoux, bonjour.
Bonjour.
Tout à fait autre chose, vous êtes les réalisateurs de ce documentaire qui passe ce soir à 20h50 sur Arte. Je dis 20h50 parce que c'est à l'heure Arte, hein. Il n'y a pas de pub. Le célibat des prêtres, le calvaire de l'Église. En quoi le célibat des prêtres est-il le calvaire de l'Église et pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet maintenant?
Je commence.
Ouais, vas-y.
On s'y est intéressé parce qu'on a considéré qu'il était peut-être un peu temps de mettre à plat ce problème dont tout le monde se doute, que l'interdiction.
Je pense qu'on en parlait quand j'étais déjà au CM2.
Absolument.
C'était le sens de ma question.
Et là, on s'est dit.
À l'époque de nos grands-parents, on en parlait
exactement. C'était déjà l'objet de tout un tas de blagues et de gaudrioles à ce sujet, la bonne du curé, etc. D'ailleurs, Annie Cordy chantait déjà dessus dans les années 70. Mais là, on a décidé d'être sérieux, c'est-à-dire de se poser, de faire une enquête internationale, d'aller dans une dizaine de pays sur 3 continents, et d'aller donner la parole aux personnes concernées, c'est-à-dire les prêtres, leurs compagnes ou leurs compagnons, leurs enfants, et de commencer par poser un principe qui est que la très grande majorité des prêtres ne respectent pas, parce que n'arrivent pas à respecter cette interdiction d'amour, de relations amoureuses et de relations charnelles avec des hommes ou des femmes, et de le documenter de manière chiffrée.
Vous dites la grande majorité, selon la revue catholique Goliath, 40 à 50%, donc c'est un peu moins de la majorité des prêtres en fonction en Europe, ne respecteraient pas la discipline du célibat, c'est pas rien. On va dire que c'est la moitié à la louche. Pourquoi ce sujet est-il toujours tabou, Rémi Bénichoux ?
Ce sujet, il est toujours tabou parce que c'est ce qui structure l'Église catholique. Et c'est unique. Il n'y a que l'Église catholique qui interdit à ses prêtres d'avoir des relations sexuelles et des relations affectives avec des femmes ou des hommes, encore moins avec des hommes. Et c'est parce que c'est ce qui structure vraiment le pouvoir de l'Église, l'organisation de l'Église, sa hiérarchie, et puis la figure du prêtre, la figure sacrée du prêtre, le prêtre qui est en dehors de la communauté, qui est au-dessus et qui est censé guider pour le meilleur et pour le pire.
On ne parle que de mecs ici, on va entendre une femme, elle s'appelle Marie-Laurence, elle est la compagne de Bernard, un ancien prêtre. Elle préside, Laurence, aujourd'hui une association de compagnes de prêtres. On va l'entendre nous parler de la solitude dans laquelle vivent ces femmes.
Je le voyais tellement malheureux, tellement triste. Je me disais, il manque d'amour cet homme-là, il manque de tendresse. Je me suis sentie investie du devoir de l'aimer, de lui apporter de la tendresse. Les compagnes de prêtres, on aime quelqu'un, on a envie de le chanter sur tous les toits. Là, ben non, il faut se taire. Il faut tout garder en soi. Il faut que rien ne se voit, rien ne se sache. Et l'on vit comme suspendu à ce prêtre. On est dans une solitude abyssale.
On compte environ 1,3 milliard de catholiques dans le monde. Est-ce qu'on sait combien il y aurait de prêtres qui auraient quitté l'Église pour vivre leur amour, si j'ose dire, au grand jour?
Ah, ça, pour le coup, c'est à peu près la seule donnée chiffrée officiellement par le Vatican. Il y a 2-3 ans, de mémoire, le grand patron des 414 000 prêtres dans le monde, le préfet de la Congrégation pour le clergé, a avoué que 80% des départs de prêtres aujourd'hui de l'Église catholique universelle étaient motivés par le fait de rejoindre leurs amours ou leurs familles déjà constituées.
Ça, c'est la motivation, mais combien sont-ils à quitter l'Église pour cette raison-là?
Alors, si on considère que l'Église catholique universelle a perdu à peu près 50 000 prêtres dans le
70
monde...
70 000 depuis les années 70.
70 000, donc oui, c'est 80% de 70 000.
Absolument.
C'est pas 8, 72. Donc ça fait 72 000 de mémoire.
Si on fait un ratio, ça fait quand même un sixième, puisque 6 fois 7, 42, à la louche, nous y sommes.
Dans votre enquête, Pierre Bénichoux, il y a l'histoire de Pierre...
Rémi,
pardonnez-moi. Il y a l'histoire de Pierre, j'ai mélangé les... Rémi Bénichoux, dans votre enquête, il y a l'histoire de Pierre qui abandonne son sacerdoce pour vivre son histoire avec Christine. L'évêque est venu les voir chez eux. Il dit à Pierre d'aller voir un psychologue, comme si tomber amoureux d'une femme était une maladie, et pas qu'un peu. Et vous allez voir de quoi il le menace. On l'écoute raconter cet événement.
Il vient un après-midi en semaine. Bon, il s'est assis à la cuisine. J'avais l'heure du micro-ondes qui était juste en face de mes yeux, donc j'ai vu que c'était 16h quand il s'est assis. Et donc je sais qu'il est resté 22 minutes, puisqu'à 16h22, il repartait.
Il était très en colère parce que Pierre habitait sur son ancienne paroisse, chez une femme divorcée.
Voilà, son discours était de nous culpabiliser. Mon attitude était un scandale. J'aurai à rendre compte devant Dieu de mes actes, Dieu me jugera.
Et que moi, j'irai en enfer. Pour moi qui suis croyante, l'enfer, c'est quand même... c'est pas rien. Bon, en des temps anciens, Je pense que j'aurais fini sur le bûcher.
On se rend compte dans votre enquête que les évêques sont particulièrement impitoyables. Est-ce que ça s'explique? Comment vous l'expliquez?
Alors, ils ne sont pas tous impitoyables comme celui qu'a connu Pierre. Mais,
il a quand même promettre l'enfer.
Oui, celui-là, il était impitoyable. Mais je veux dire, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Ils sont en général très durs parce qu'ils veulent garder les prêtres dans l'église. Parce qu'il y a une grave pénurie de prêtres. Les paroisses sont vides. Et puis aussi parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Parce que la morale est en jeu.
Éric Colomère, il y a un mot qui revient beaucoup dans la bouche de vos témoins, c'est l'adjectif hypocrite.
Oui.
Qui sont, de votre point de vue, les plus hypocrites au sein de l'Église?
Alors, je dirais que d'une certaine manière, ce sont les conservateurs qui n'ont pas voulu venir dans notre film, puisque nous avons sollicité énormément d'évêques, de prêtres, de théologiens conservateurs qui défendent mordicus la règle du célibat et de la chasteté. Ils nous vendent encore et toujours un prêtre qui est un pur esprit, qui n'a pas besoin d'amour, qui n'a pas besoin de relations charnelles, un prêtre qui est très proche de Dieu, un ministre de Dieu qui est un corps sans pulsion. Et cela continue à s'accrocher à cette règle dont on sait bien qu'elle n'est pas respectée dans l'immense majorité des cas et qui produit un mensonge, en fait une sorte de marketing auprès des fidèles d'un prêtre pur esprit qui est en réalité un homme comme les autres et qui a besoin lui aussi d'amour et de relations sexuelles.
Ce qui est très très intéressant dans votre enquête, le célibat des prêtres, on en a beaucoup parlé, mais vous allez plus loin, vous parlez des enfants, la descendance des prêtres. On estime qu'il y a environ 50 000 enfants de prêtres dans le monde, et on va l'entendre, avec le cas d'Isabelle, ce sont des enfants qui souffrent énormément de cette situation.
Mon père venait le week-end, il venait aux anniversaires, à mes anniversaires, il venait le dimanche après-midi, après la messe. Donc non, il ne restait pas. Au début, il ne restait pas tout le temps. Et après, au fur et à mesure que les années sont passées, des fois, il restait aussi le soir. Quand on était dans l'intimité, je l'appelais papa, il m'appelait Isabelle par mon prénom. Il parlait de moi, oui, en disant que j'étais sa fille. Mais dès qu'on était dans la rue, j'avais l'interdiction de l'approcher s'il parlait des personnes qu'il rencontrait. C'était quand même très, très difficile pour moi de devoir me cacher. Donc il ne fallait pas que ces personnes-là sachent que j'étais sa fille. Il disait que j'étais sa fille. Là. On se sent rabaissé, on se sent rejeté, on se sent humilié de se dire qu'on n'a même pas le droit d'avoir le statut de fille.
Et elle parle au présent, elle ne parle même pas à l'imparfait, elle dit pas on se sentait. Elle le ressent toujours aujourd'hui alors qu'elle est adulte.
Toujours, ouais, toujours.
Un mot de l'homosexualité dans l'Église qui est une réalité, jusque dans les années 80-90, vous dites qu'il était attractif, si j'ose dire, pour les homosexuels de devenir prêtres catholiques parce que l'Église était un endroit accueillant pour eux et pour cause. Personne ne leur demandait pourquoi ils n'avaient pas de femmes. Mais les choses ont changé, non?
Alors, c'est progressivement, effectivement, en train de changer, mais ce que l'Église catholique permet toujours à des personnes homosexuelles qui, parfois, ont du mal à vivre ouvertement leur homosexualité dans nos sociétés, il y a encore, pour les homosexuels, parfois, des phénomènes, des mécanismes violents que la société leur oppose, c'est que l'Église catholique permet d'être un célibataire qui n'a aucune injonction, effectivement, pour avoir une famille, fonder une famille, avoir des enfants, et d'avoir des amours cachés qui sont parfaitement toléré. Mmh. On est dans un entre-soi, un peu comme si l'Église catholique était, on va dire, un bout du quartier du Marais, mais dans tous les coins où l'Église catholique accueille ses prêtres.
Je me souviens d'une très longue enquête passionnante de Frédéric Martel sur ce sujet, où il est allé jusqu'au Vatican et voir combien tout ça a été toléré et absolument, si j'ose dire, presque organisé. Merci beaucoup Rémy Bénichoux, merci Éric Colomère, je rappelle votre documentaire.
Merci à vous.
Le célibat des prêtres, le calvaire de l'Église, le terme est bien choisi, c'est ce soir à 20h50 sur Arte et il est disponible sur arte.tv déjà maintenant. Culture Média continue.